Chapitre 55. Les clés du pavillon du rocher. La chaise bascula et son dossier claqua sur le sol de marbre de l'orangerie, trop violemment pour qu'il s'agisse d'un simple accident. D'ailleurs, Sabine ne s'excusa pas. Elle ne ramassa pas la chaise non plus. Elle se contenta de traverser les cercles d'ados assis. Alix répéta dans sa tête « Merci, Sabi. À toi de jouer maintenant. »
« Atrophie cérébrale ?»
cria d'une voix forte la Lolly Girl.
« Crétinisme ? Débilité ? C'est bien ce que tu viens de dire, Zaza !»
Sabi était vêtue d'un pantalon de jean ultra serré et d'un t-shirt sur lequel était dessinée une bouche rouge, tirant la langue à celui qui la regardait. Une tenue décontractée en contraste total avec la robe de cardinal de la ministre du temps passé. Les garçons poussaient leur siège pour que Sabi puisse se faufiler, puis laissaient traîner leur regard sur elle dès qu'elle était passée. Un sourire se glissa sur les lèvres d'Isalis dès que la Lolly Girl fut devant elle. Enfin, la controverse allait pouvoir débuter. Sabi la toisa, jusqu'à ce que la ministre du temps passé soit obligée de baisser les yeux sur la langue rouge.
« Commençons par le commencement !» annonça la Lolly Girl. « Alors comme ça, Zaza, tu prétends que ces soi-disant sauvages, nés prématurément au bout de 6 ou 7 mois, n'auraient pas eu le temps de se développer comme nous, qui sommes restés pendant les 9 mois réglementaires bien peinards au chaud dans le ventre de notre maman ? Ah ! Voyons ça ! Qu'ont-ils de moins que nous ? À ma connaissance, Pou a 2 bras, il a aussi 2 jambes, 2 yeux, 2 narines. » D'accord, il est un peu gringalet, mais on n'a peut-être juste pas eu de chance. On est tombé sur le petit rachitique de la bande. Si ça se trouve, quand on rencontrera ses copains, on découvrira chez les Prémas des tas de garçons super canons.
Les derniers rangs de l'orangerie, principalement occupés par des Lolly Girls, des singes et des savants indisciplinés, éclatèrent de rire. Isalis, debout à côté d'elle, tout comme Augénor, Jean d'Arc et Vanille, assis au premier rang, restèrent imperturbables.
Alors, je me le demande, continua Sabi, qu'ont-ils de moins que nous? Ah, c'est vrai, ils ne parlent pas. Mais ne devrait-on pas plutôt dire qu'on ne les comprend pas? Car ils se parlent entre eux, ils ont leur propre langage et se comprennent.
Tout comme les oiseaux ou les chats,
lança Isalis. La ministre du temps passé s'était redressée. Sous sa capuche, un rictus déformait les ombres de son visage.
Tout comme les chiens aboient, insista-t-elle. Tout comme les poules caquettent et les vaches beuglent. Les animaux communiquent entre eux avec leur propre langage et ça ne fait pas d'eux des humains.
Des grognements de cochons et des coassements de crapauds s'élevèrent du deuxième rang où était installée une majorité de soldats, surtout des garçons. Isalis venait de marquer un point. Profitant de la confusion qui régnait, Alix changea de chaise et se décala en direction de la sortie opposée à Augénor. Sabi adressa un clin d'œil complice à Isalis et lui parla comme si elles étaient seules dans l'orangerie.
« Ils font trop bien les cochons, tu ne trouves pas ?
Comment tu disais déjà ? Atrophie cérébrale ? Débilité ? Tu ne crois pas que c'est une maladie qui touche surtout les garçons ? »
Les sifflets redoublèrent alors que les filles applaudirent à tout rompre. Alix se déplaça encore 2-3 chaises.
« Redevenons sérieux !»
fit Sabi lorsque l'ambiance se calma un peu.
« Avant que je te coupe, Zaza, tu parlais de négligence et d'indifférence. Selon toi, laisser ces enfants prématurés tranquilles, ce serait de l'indifférence ? Eh bien moi, je pense tout le contraire. Je pense que les laisser vivre comme ils veulent, c'est juste reconnaître que leurs coutumes valent autant que les nôtres. S'ils veulent se balader tout nus plutôt que de s'habiller, c'est leur droit. S'ils veulent se nourrir de lait tété direct au pied des chèvres plutôt que de manger de la viande ou des légumes, c'est leur droit aussi. C'est pas de l'indifférence, Zaza. C'est leur droit à la différence. Et je vais t'avouer une chose, j'adore la différence. J'adorerais tester ça, boire du lait de chèvre bien frais toute la journée.
Et te promener toute nue,
siffla une voix anonyme de garçon au fond dans la salle. De nouveaux rires fusèrent. Sabi se tourna vers Donatello, dont elle avait repéré la voix, et lui tira une double langue rouge, ce qui multiplia par 2 l'explosion de rire. Isalis paraissait exaspérée. Elle suait de plus en plus sous son épaisse robe rouge. Elle s'essuya le front d'un revers de manche, chercha du réconfort dans le regard de Génor, puis reprit vaillamment la controverse.
D'accord, Sabine. Puisque tu parles de nourriture, allons-y. C'est un bon exemple. Toi comme moi, et tout le monde ici, depuis que nous sommes nés, nous avons suivi au château des cours sur l'anatomie, sur nos systèmes digestifs, sur l'hygiène, l'équilibre alimentaire, nos besoins en vitamines. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi Marie-Lune nous a-t-elle rempli la tête avec ça? Sabi tenta de montrer qu'elle s'en fichait, mais Isalis ne la lâcha pas des yeux. Pour notre bien, pour que nous ne tombions pas malades, pour que nos corps se développent avec harmonie. La ministre détailla avec insistance la jolie silhouette de Sabi. Et si nos parents étaient encore là, ils auraient fait la même chose pour nous. Ils nous auraient forcés à nous nourrir correctement, à goûter les aliments que nous détestons pour notre bien, parce qu'ils nous aiment. Et c'est exactement ce que nous a enseigné Marie-Lune, parce qu'elle nous aime. Si tu aimais ces enfants prématurés, Sabi, tu en ferais autant. Tu les aiderais et, par exemple, tu les obligerais à mieux s'alimenter. À moins que tu ne préfères qu'ils attrapent toutes les maladies qui passent, qu'ils meurent avant même de devenir adultes. Pourquoi ce qui est bon pour toi, Sabi, ne le serait pas pour eux? Oui, j'appelle cela de l'indifférence.
Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la rangée des soldats et d'une bonne moitié des chaises occupées par les singes et des savants. Isalis venait de marquer de nouveaux points. Elle regarda avec fierté Augénor. Visiblement, elle avait déroulé à la lettre les arguments préparés par le grand cerf. Des chaises grincèrent soudain derrière eux. Un nouvel ado s'était levé et entrait au centre du cercle de chaises. Valère venait au secours de Sabi. L'historien se planta devant Isalis. Sa tête, aussi rouge que la robe de cardinal de la ministre, arrivait à peine à la hauteur de sa capuche. Ça ne l'empêchait pas de se montrer sûr de lui. Il commença par applaudir des deux mains, longuement, sans que personne comprenne pourquoi.
« Bravo !» dit-il enfin. « Vraiment ! Quelle générosité ! Expliquer à une autre tribu ce qui est bon pour elle ! Formidable ! Imaginez si les oiseaux avaient pitié de nous et se mettaient en tête de nous apprendre à voler, ou si les poules essayaient de nous convaincre qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé que de manger des vers de terre. »
De nouveaux rires fusèrent et Sabi, malgré elle, devint presque aussi rouge que l'historien. En deux phrases, Valère venait de reprendre l'avantage.
« Il n'y a qu'une seule vérité historique, » continua-t-il avec gravité. « Aucune tribu n'est supérieure à une autre. Chacune possède ses propres lois. »
Entièrement d'accord avec toi, confirma une voix derrière lui.
Augénor venait de prendre la parole pour la première fois. Il fit rouler son fauteuil vers le centre de la pièce, et dans le même mouvement, Alix en profita pour se lever et filer vers la sortie. Lunella, Estive et Leonarda s'assirent immédiatement autour de la place que leur reine venait de quitter, dissimulant sa chaise vide en se serrant les unes contre les autres.
« Arrêtons donc de jouer avec les mots, » poursuivit le grand cerf. « Indifférence ou droit à la différence, normalité ou débilité, on s'en moque.
Le plus important est le second avertissement que nous a lancé Isalis, la négligence. »
Un silence absolu régnait de nouveau dans l'orangerie. Quelques ados dans le fond de la pièce avaient arraché des feuilles d'oranger et s'en servaient d'éventail pour combattre la chaleur. Vanille, au premier rang, les avait repérés et leur lançait des regards outrés.
Ne soyons pas aveugles, poursuivit
le conseiller en bloquant les roues de son fauteuil roulant et en agitant sa canne au diamant.
Ces enfants prématurés ont 14 ans comme nous. Ils en auront 15 à minuit. Ils paraissent plus jeunes dans leur tête, dans leur corps, mais c'est bien l'âge qu'ils ont.
Il se tourna vers Sabi et Valère.
Vous voulez les laisser grandir dans leur ignorance et se comporter comme des petits animaux si ça leur chante, c'est bien ce que vous souhaitez? Fort bien, pourquoi pas? Mais alors, que se passera-t-il?
Augénor pointa le diamant de sa canne vers des ados pris au hasard dans les rangs, Camélian, Fanfan, Pépin, Flabel, Moebia.
Ils feront la chose la plus naturelle du monde. Ils se reproduiront. Dès maintenant, ils ont 15 ans. Ils se reproduiront et ils se multiplieront. Et demain, après-demain ou dans une génération, leur tribu avec ses lois d'enfants sauvages nous engloutira. « Voilà pourquoi, si nous n'agissons pas, j'appelle cela de la négligence !»
La voix du conseiller était maintenant exaltée. Tout l'auditoire était pendu à ses lèvres.
« Marie-Lune, notre mère à tous, nous a confié une mission, une seule, reconstruire un nouveau monde en gardant le meilleur de l'ancien. Nous en sommes les seuls gardiens. C'est notre devoir. Notre devoir envers Marie-Lune. Notre devoir envers nos parents. Notre devoir envers nous-mêmes. Et c'est notre devoir envers ces enfants prématurés.
Sa canne s'abattit soudain sur le sol de marbre.
Eux aussi ont le droit de profiter de notre savoir, de notre expérience et de nos connaissances. Eux aussi ont le droit de ne pas vivre dans la médiocrité et l'ignorance. Mais pour cela, comme les enfants d'avant le passage du nuage craignaient et obéissaient à leurs parents, comme nous avons craint et obéi à Marie-Lune, les enfants prématurés devront nous craindre et nous obéir. Et pour cela, nous devrons les convaincre de la supériorité de notre mode de vie, par la force s'il le faut. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est notre devoir. Notre seul devoir. Parce qu'ils sont dangereux, j'en suis persuadé. Pour nous, et pire encore, pour eux.
Augénor s'arrêta, couvert de sueur, tremblant encore. Après un quart de seconde de silence, une immense clameur parcourut les deux premiers rangs, accompagnée d'une salve assourdissante d'applaudissements, à en faire trembler toutes les verrières de l'orangerie.
Gulot ronflait à en faire trembler les murs de la chambre du roi.
« Tu es sûr qu'il va se réveiller un jour ?» demanda Alix. « T'as bien respecté les doses pour les herbes de Louponero ?»«
Tu rigoles ?» répondit Zizo.
« Je les ai triplées.
T'as vu sa carrure d'ours polaire ?»
Alix sourit. Elle venait de rejoindre Zizo dans la chambre du roi. Un bisou et au boulot. Il devait vite trouver la lettre de Marie-Lune et les bandes vidéo. Augénor ne tarderait pas à s'apercevoir de son absence à l'orangerie. Même si Alix devait s'absenter le moins de temps possible, elle savourait le plaisir de pouvoir fouiner dans la chambre de son conseiller.
Article 2 de tes nouvelles règles, mon grand cerf, ironisa-t-elle avec un délicieux goût de revanche. En cas de soupçon grave concernant un occupant du château, on a le droit de fouiller dans ses affaires personnelles. Tout était parfaitement rangé dans la chambre d'Augénor. Pas une chaussette ne traînait. Tout était ordonné, empilé, plié dans le mobilier de bois laqué incrusté d'or. Ils ouvraient et refermaient des armoires et des placards, dont les portes et les tiroirs, pourtant vieux de plus de 300 ans, n'émettaient pas le moindre grincement. Comme s'ils avaient été sciés, assemblés, vernis et dorés le mois dernier.
On cherche en priorité les bandes vidéo de la clinique des immortels, proposa Alix. On sait qu'elles sont là, et ce sera du bonus si on trouve le courrier intime de Mama Luna.
Ils continuaient de fouiller la pièce avec méthode, prenant soin de refermer chaque tiroir et chaque porte de placard qu'ils ouvraient. Il n'était pas question de se comporter comme des pillards. Il devait juste récupérer les documents que le conseiller avait confisqués. Au bout de quelques minutes, ils commencèrent à désespérer. Des livres, encore des livres, c'est tout ce qu'ils trouvaient. Des ouvrages d'histoire principalement, des biographies de César, Charlemagne, Napoléon, Gengis Khan, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI.
« Ça se confirme, » commenta Zizo. « Carrément mégalo, le grand cerf !»
Alix soupira. Elle était allongée, les deux mains occupées à inspecter sous le lit à baldaquin, et écartait une couche de poussière jamais balayée depuis des siècles.
« Il y a forcément un endroit où il a caché les documents top secret. »
Zizo ne répondit pas. Il avait entrepris de se suspendre au lourd rideau bleu de la chambre et était parvenu à grimper jusqu'à une corniche entre le haut du mur et le plafond. Il passa sa main à l'aveuglette.
« M'étonnerait qu'Augénor puisse jouer ainsi les équilibristes, »
s'inquiéta Alix en l'observant.
« Il faut chercher tout ce qu'il peut atteindre assis dans son fauteuil. »«
Ah oui !»
fit Zizo triomphant. Il tenait dans la main un petit coffre d'argent fermé par un cadenas sur lequel était gravé « Grand contrôle, top secret ». Il descendit avec souplesse. Alix n'en revenait pas.
« Comment Augénor a-t-il pu cacher ce truc si haut ?»«
Il a tout simplement demandé de l'aide, » répondit Zizo. « Ou il s'est accroché au rideau. N'oublie pas qu'il a une force colossale dans les bras. »«
Ouais. Et la clé ?»«
À mon avis, il la garde sur lui. » »«
Ou bien,
si Vanille faisait vraiment son travail de délégué au grand contrôle,
C'est elle qui la garderait.
On embarque le coffre alors ?
Elle consulta la pendule de bronze posée sur la cheminée. Il se trouvait dans la chambre depuis 20 minutes. Gulot-Gulot ronflait toujours avec la même régularité, mais Florentine s'agitait de plus en plus, signe d'un sommeil qui devenait léger.
« Sans même savoir ce qu'il y a dedans ?»
demanda Zizou.
« T'as une autre idée ?»«
Oui. » Il sortit de sa poche une étrange pièce de métal de forme allongée.
« Sais-tu quelle était la spécialité du dernier roi à avoir occupé cette chambre ?» « Louis XVI, celui dont on a coupé la tête. »« Exact. » »«
Maman Lune serait fière de toi. » »«
Eh bien, son passe-temps préféré, c'était serrurier. » Les savants ont retrouvé à côté de leur labo, dans la librairie des princes, toutes sortes de clés. Et certaines, d'après eux, sont de très ingénieux passe-partout.
Des quoi ?
Des clés qui ouvrent tout, si tu préfères. Liu en a donné une à Lunella, qui l'a donnée à Solario,
qui me l'a donnée. Il introduisit le passe-partout dans la serrure du cadenas, secoua un peu le tout, força, et le cadenas s'ouvrit sans davantage de résistance.
« Bien joué, le roi sans tête !»
Le coffre d'argent contenait effectivement l'ensemble des bandes vidéo récupérées par Agnel et Solario à la clinique des Immortels. Ils les fourrèrent dans le sac à dos de Zizou, puis refermèrent le cadenas. Et Zizou se suspendit à nouveau au rideau pour remettre le coffre à sa place.
Ah, « Ni vu ni connu. Avant qu'ils s'aperçoivent qu'on les a prises, il y aura longtemps qu'on saura ce qu'elles contiennent. D'après Solario, l'ordinateur qui peut les lire est prêt. Il n'y a plus qu'à l'allumer. » Tout à l'heure, après la controverse,
souffla Alix qui peinait à croire que leur plan se déroule aussi facilement.
Qu'est-ce qu'on fait ? On se tire ou on cherche le fameux courrier de Marie-Lune ?
Alix consulta de nouveau la pendule.
On cherche, mais pas plus de 5 minutes.
T'as une idée ?
Ouais !
Elle regarda autour d'eux les centaines de livres rangés dans les bibliothèques, sur les étagères des placards et dans les tiroirs ouverts.
Il l'a glissé entre les pages d'un livre, j'en suis certaine. Reste à trouver lequel.
Solario et Agnel, debout devant le grand Trianon, observaient la façade de marbre rose qui recouvrait les murs. Elle semblait aussi glissante qu'une savonnette. Ils étaient seuls devant le bâtiment. Aucun soldat ne surveillait la prison vide. Akan était resté devant le pavillon du rocher pour surveiller les trois gardes jusqu'à ce que les deux ministres reviennent avec le trousseau. Solario et Agnel restèrent un long moment sans prononcer un mot, cherchant une solution chacun dans leur cerveau. La clé ouvrant la porte du pavillon du rocher, pour libérer Pou, était accrochée à l'intérieur du Grand Trianon, dans la salle des gardes. Mais le Grand Trianon était fermé à clé, comme les autres bâtiments du parc.
« Impossible d'entrer !» gémit Solario. « À moins de 6 mètres à 10 et de défoncer la porte avec un bélier !» Les clés de la prison de Pou sont là, pourtant, juste de l'autre côté.
Agnel regardait ailleurs, en l'air.
« Je peux escalader la façade ?» fit-il. « Et si j'arrive à casser la lucarne, je saute à l'intérieur et je récupère les clés. »
Solario examina plus attentivement encore le mur de marbre clair. Il était plus lisse qu'une cuvette de toilette, impossible d'y grimper.
« C'est trop dangereux » estima-t-il. « Tu vas te casser le !»
Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Son ami avait déjà grimpé plus de 3 mètres. Il prenait appui sur la moindre anfractuosité de la roche pour se hisser, à la force des mains et des pieds. Il s'accrochait à chaque infime fissure, recroquevillait le bout de ses orteils sur une minuscule corniche. On aurait pu jurer que, tel un lézard ou une mouche, il possédait des ventouses au bout de ses doigts pour rester collé à la paroi. En moins de 10 secondes, il avait atteint la lucarne ronde.
« Lance-moi une pierre !»
Solario se précipita pour en ramasser une de la taille d'une balle de tennis. Il leur fallut 3 essais avant qu'Agnel parvienne à l'attraper. 3 coups forts dans le carreau, et la vitre cédait déjà.
« Attention de ne pas te couper !»
Solario n'eut pas non plus le temps de terminer sa recommandation. Agnel avait déjà disparu à travers la lucarne.
« Agnel ? Agnel ? Tout va bien ?»
Aucune réponse, aucun bruit. Solario commença à paniquer. Et si Agnel s'était entaillé les bras et les jambes en passant par la lucarne ? Solario observait avec inquiétude les tessons de verre hérissant les rebords de la fenêtre ronde. Et s'il était tombé sur le marbre de la salle des gardes ? La lucarne était haute de plus de 10 mètres. Et si on cognait à la porte, de l'intérieur ?
Agnel !
Cria Solario à travers la cloison de bois.
Agnel, c'est toi ?
Une voix sourde, dont il ne comprenait qu'un mot sur deux, lui répondit.
Oui ! Qui d'autre ? Faites-il ! Descendre ! D'ouvrir ! Je parte !
Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? T'es coincé à l'intérieur ?
Oui ! Impossible ! Remontez !
Un oiseau pris en cage, pensa immédiatement Solario. Il se lança envahir par un profond désespoir. Les clés du pavillon du rocher étaient accrochées dans la salle des gardes, mais la porte était bloquée, et seul Jean d'Arc possédait l'autre trousseau. Sans ces clés, il était impossible de libérer Pou. Dès que les soldats sortiraient de l'orangerie, plus jamais Pou ne se retrouverait seul sans une solide escorte. Et il en serait ainsi jusqu'à ce qu'il l'abandonne à une mort certaine en forêt. Les yeux de Solario s'embuaient de larmes. Il n'arrivait pas à imaginer qu'on puisse faire du mal à cet enfant prématuré, si fragile, si vulnérable, son protégé, son ami. Il frotta ses paupières humides d'un revers de main, sans parvenir à cesser de penser à Pou, enfermé, terrorisé. Quand il les ouvrit, il crut à une hallucination. Une main sortait du mur, une main portant un trousseau de clés. La voix d'Agnel, un peu plus distincte, parut traverser elle aussi le mur du Grand Trianon.
« Attrape ! Clés ! Travers ! Boîte aux lettres !»
Solario s'en saisit aussi vite qu'il le put. Il évalua en un éclair la taille de la fente dans le mur. Quelques centimètres, juste assez pour qu'Agnel puisse y glisser sa main fine.
« Phil ! Phil ! Me débrouillerai !»
Solario prit néanmoins une seconde pour attraper la main de son ami. Il la serra fort, très fort, comme si c'était la dernière fois qu'il se touchait. Il la lâcha à regret.
« J'y vais ! Rejoins-nous vite !»
Et il sprinta retrouver Akane en direction du pavillon du rocher.